Alors, ce matin, on poursuit notre série dans Philippiens. Et on se tourne vers un passage important dans Philippiens. J'oserais dire que c'est probablement le passage dans tous les écrits de l'apôtre Paul qui résume le mieux le genre d'état d'esprit, excusez l'anglicisme, là, mais ou le mot en anglais, le « mindset » de Paul, la mentalité de Paul à tous les jours. Comment est-ce que Paul pensait au quotidien, dans les épreuves, les joies, les peines du quotidien? Et puis, lorsqu'on parle de l'apôtre Paul, à peu près tous les théologiens, j'oserais même dire, probablement les apôtres, auraient été d'accord pour dire que Paul a été le plus grand théologien de tous les temps, évidemment après Jésus, là, on s'entend. Mais donc, peu de gens, ou sinon personne, comprenait et connaissait Jésus-Christ aussi bien que l'apôtre Paul. Puis quand je parle d'une connaissance, je ne parle pas d'une connaissance de tous les jours. Je parle d'une connaissance intime, parce qu'évidemment, j'étais en train de me préparer, puis là, je me disais, attends un peu, il y a d'autres personnes qui connaissaient Jésus encore plus. Il y a des gens qui ont vécu avec lui. Je pensais à sa mère, ses frères, ils ont vécu avec lui pendant des années. Connaissait au quotidien, il savait combien ça prenait de café le matin avant qu'il soit parlable, comment il rangeait sa brosse à dents. C'est pas ça qu'on parle. On parle d'une connaissance intime, personnelle de Jésus-Christ. Puis, pour Paul, cette connaissance-là, c'était plus que le début de la vie chrétienne. Dans le jargon évangélique, souvent, on va dire que pour devenir chrétien, il faut connaître Jésus-Christ. Puis, on va résumer ça comme avec deux titres. Hein? On va dire qu'il faut... Il faut reconnaître en Jésus notre Sauveur, puis il faut reconnaître en Jésus notre Seigneur. Souvent, on résume ça comme ça un peu. Qu'est-ce que c'est devenir chrétien? C'est croire en Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Pour Paul, c'était plus que ça. Je pense que pour un grand nombre d'entre nous, on vient à la foi, on décide de croire en Jésus comme notre Sauveur, seul moyen d'être sauvé. On comprend l'œuvre qui est venue accomplir à la croix pour notre salut, le pardon de nos péchés. Puis on veut qu'il dirige notre vie, on veut le suivre, on veut être des disciples de Jésus-Christ, des chrétiens, n'est-ce pas? Mais après ça, on reste allé là. Le moteur étouffe là, puis on ne bouge plus. Et pour Paul, c'était plus que ça, Jésus-Christ. Jésus, c'était son tout. Bien comprendre Sauveur et Seigneur, c'est tout. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Pour Paul, Jésus, c'était son précieux trésor. Et c'est comme s'il n'y en avait à jamais assez de saisir et de connaître Jésus-Christ. Il le connaissait intimement, mais jamais suffisamment à son goût. Il savait qu'il y avait d'autres dimensions de Christ à saisir. Et ça venait transformer son quotidien, ça venait transformer ses peines, ses joies, sa manière de faire face à la vie. J'aime bien comment J.I. Packer a dit ceci. Il dit, J.I. Packer qui a écrit « Knowing God, connaître Dieu », je parle souvent de ce livre-là, je vous encourage à le lire, c'est un grand classique, un livre à lire et relire. Et Packer dit dans « Connaître Dieu », je m'excuse, Packer dit « Une fois que tu prends conscience que la raison principale de ton existence est de connaître Dieu, vraiment, la majorité des défis et des problèmes de la vie prennent une toute autre perspective. Une fois que tu prends conscience que la raison principale de ton existence est de connaître Dieu vraiment, la majorité des défis et des problèmes de la vie prennent une autre perspective. Pour Paul, connaître Christ, c'est exactement ça. Et ça changeait sa perspective de toutes les expériences de la vie d'un être humain, de la vie d'un chrétien. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on est assemblés en Église ce matin pour te célébrer, pour t'adorer, pour te connaître. Pour te connaître, Seigneur, comme l'apôtre Paul voulait te connaître. Pour te saisir comme lui cherchait à te saisir. Pour vivre et expérimenter la puissance de ta résurrection, mais comme il le dit aussi, la communion à tes souffrances, Seigneur. Viens nous aider à comprendre ces versets ce matin. Et viens nous transformer, Seigneur Jésus. Viens nous transformer à ton image, que ton caractère, ta manière de voir la vie, devienne notre manière de voir la vie, qu'on devienne des imitateurs de Paul qui a traversé des choses autrement plus difficiles que celles que nous avons à traverser, avec une joie et une espérance constante en toi, Seigneur. Et Père, j'ose te demander si ce matin quelqu'un parmi nous ne connaît pas Jésus-Christ pour son salut. Déjà, Seigneur, viens lui faire connaître Christ. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen. Alors, on va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Alors, la lecture de ce matin est tirée de Philippiens au chapitre 3. Je vais lire les versets 4 à 14 dans la nouvelle édition Genève. Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 14. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Merci Stéphane. Je vais m'excuser, mais il faut que je me soigne ce matin. Je vais essayer de ne pas tousser trop. Ce qu'on veut faire à travers la série dans Philippiens, comme je l'ai dit, ce n'est pas une lettre polémique. Ce n'est pas une lettre où Paul est vraiment en train d'adresser des problèmes sérieux dans l'Église, mais il veut voir les chrétiens qui ont compris l'Évangile. L'Église a déjà une dizaine d'années à Philippe, dans la ville de Philippe, et il veut voir les chrétiens grandir en maturité. Il veut les voir prendre la maturité dans leur connaissance de Christ, dans leur expérience de Christ, dans leur compréhension de la vie chrétienne. Il veut les affermir dans leur compréhension, dans leur théologie, mais dans leur expérience personnelle aussi de Jésus-Christ. Et donc, il y a un thème qui court à travers toute la lettre aux Philippiens. Mon épouse est musicienne, comme vous savez, puis premièrement musicienne classique, puis Esther m'a enseigné des petits principes, juste pour que je sois un peu moins nono quand j'écoute de la musique classique. Puis il y a ça dans la musique classique, dans des longues pièces, il y a des thèmes musicaux. Puis lorsque tu repères, souvent il va être assez direct, un peu comme on dirait un refrain, mais c'est plus qu'un refrain. Puis, si tu le détectes au début de la pièce peut durer pendant 90 minutes. Mais le thème va revenir, puis il va être décliné de différentes manières. Puis là, à un moment donné, tu entends, puis « Wow, OK, il a joué avec, il a tout comme transformé, mais tu reconnais le thème encore. » Puis là, un petit peu plus loin, encore, c'est un autre instrument qui arrive avec, puis c'est le thème qui revient encore. Il y a un thème comme ça que l'apôtre Paul est en train de développer à travers toute sa lettre. On pourrait dire qu'il y en a plusieurs, mais je dirais que le thème central, c'est vraiment saisir Christ, comprendre, connaître Christ, que Christ soit mon précieux trésor. Et ça, c'est une mentalité, une pensée qui est constante chez Paul. La semaine dernière, avec notre chère Basile, on a vu ensemble, vraiment avec justesse, ça a été bien apporté. Avec Basile, on a vu ensemble la semaine dernière la pensée de Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus pensait lorsqu'il a quitté la gloire? Il est venu sur la terre, s'est humilié, fait face aux défis humains très réels, mais même surhumains, celui d'aller porter nos péchés sur la croix. Quelle attitude il avait, quelle mentalité il avait. Puis là, dans le passage de ce matin, on se tourne vers Paul maintenant. parce que Paul cherche à être un imitateur de Christ. Et Paul va dire maintenant, regardez à des hommes, des femmes matures autour de vous qui vont être des modèles que vous allez pouvoir imiter. Alors, regardez-moi, je cherche à imiter Christ, cherchez à m'imiter maintenant. Et donc, on va étudier cette mentalité, cet état d'esprit chez Paul. Paul avait bien compris cette parole de Christ. C'est Jésus qui dit dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Toute la gloire de l'éternité se résume à la connaissance véritable et intime de Dieu. Et la personne par excellence qui révèle la personne de Dieu, c'est son Fils, Jésus-Christ. Dieu le Fils fait homme. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, voici comment je résumerais l'exposé de ce matin. Toute la pensée, la mentalité de Paul se résume à un seul objectif, connaître personnellement, véritablement, Jésus-Christ. Son zèle, sa joie, sa paix, ses espoirs, tout découle de la poursuite de Christ. D'accord? Je répète ça. Parce que c'est vraiment ce qu'on doit méditer et c'est vraiment ce qu'on doit saisir. Toute la pensée, la mentalité de Paul se résume à un seul objectif, connaître personnellement, véritablement Jésus-Christ. Son zèle, sa joie, sa paix, ses espoirs, tout ce qu'on voudrait expérimenter au quotidien, tout découle d'une seule chose, la poursuite de Christ. Paul dit, j'ai renoncé à tout pour gagner Christ. Je vais l'illustrer comme ceci, OK? Il y a des gars ici qui espèrent se marier un jour, des filles aussi, mais je vais prendre les gars, OK? Fait qu'écoute-moi bien, mon homme. Si tu rêves de te marier un jour, 25 ans, je suis marié, je peux commencer à parler comme ça. Si tu veux connaître une femme, là, vraiment, si tu veux l'aimer, si tu veux la chérir, si tu veux la satisfaire, mais être comblé d'elle, tu vas devoir renoncer à toutes les autres femmes sur la terre. Complètement. Entièrement. Définitivement. Pour toi, toutes les autres femmes de la terre ne représenteront plus rien. Ça peut être des amis, ça peut être des sœurs dans le Seigneur. C'est des personnes qu'on aime. Mais l'objet de tes désirs, la poursuite avec ton énergie d'un être à aimer intimement, à connaître, à étudier toute sa vie durant, c'est une seule femme. C'est celle que tu as décidé de connaître et d'aimer. Et c'est pour ça que le mariage, selon Paul, est vraiment une excellente illustration de la relation de Christ avec l'Église. Paul avait compris que la seule manière de connaître véritablement Jésus-Christ, vraiment Jésus-Christ, c'est de considérer toute autre poursuite comme tellement, tellement, tellement incomparable, inférieure, rien à voir avec la poursuite de Christ. Tout devient pas juste secondaire, pratiquement insignifiant. C'est pas que j'aime pas les gens autour de moi, c'est pas que je considère plus les gens autour de moi, c'est pas qu'ils n'ont aucune importance, mais proportionnellement, ils sont totalement insignifiants. Proportionnellement, ils n'ont plus aucune importance. Mais c'est plus que les gens, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout ce qui donne un sens à la vie pour celui qui n'a pas été saisi par Christ. Alors que celui qui a été saisi par Christ veut simplement connaître Christ. Regardez bien ce que Paul dit dans Philippiens 3:3. Car les circoncis, c'est nous, je vais revenir un petit peu sur ça un peu plus loin, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Paul avait un seul sujet de se glorifier. À ses yeux, à lui. Je veux dire, si ça avait été devant les hommes, tu sais, on aurait pu écrire des biographies incroyables sur Paul. On aurait pu écrire des livres, c'est un aventurier, c'est un homme qui a vécu la vie avant de connaître Christ, puis après avoir connu Christ, sa vie est passionnante, sa vie est folle, c'était un malade. Mais tout ça pour lui, c'est insignifiant parce que la seule gloire qui compte aux yeux de Paul, c'est Jésus-Christ. C'est qu'il connaît Jésus-Christ. Non pas qu'il y ait un mérite de l'avoir connu, mais c'est le seul objet de fierté pour lui, c'est de dire « Je suis chrétien et je connais Jésus-Christ ». Tout le reste pour lui était sans importance. Philippiens 3:8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Maintenant, de la boue, c'est faible comme traduction parce que le mot qui est là est à la limite vulgaire. Il pourrait normalement être traduit par excrément. D'accord? Excrément québécois, je vous laisse le dire. Ça va? Tout! Mais il y a un autre sens possible aussi. Il y a un autre sens possible à ce mot-là, c'est de la nourriture avariée. C'est la nourriture qu'on jetait aux chiens. D'accord? Nous, on n'a pas des chiens ici, vous savez, on a des animaux domestiques. Vous comprenez? Chez nous, on a un chien, il est ça de long, puis c'est un animal domestique, c'est pas un chien. Il faut voyager dans le monde pour savoir c'est quoi un chien, d'accord? Un chien, c'est un charognard, ça mange n'importe quoi. Fait que tu sais, tu rouvres ton frigidaire, puis tu dis, tu donnes ça au chien. C'est de ça dont il est en train de parler, puis je pense que c'est de ça qu'il est en train de parler, parce que justement, un peu plus tôt, Paul va parler des chiens, très, très, très sévères, en parlant des gens qui veulent ajouter à l'Évangile. Donc, regardez bien le jeu de mots, là, puis je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il faut prendre le temps de lire le passage, d'accord, pour saisir ça. Paul est en train de dire, à quelque part, tous ceux qui veulent ajouter à l'Évangile quelque chose de plus que la grâce, quelque chose de plus que Christ, des performances humaines, peut-être qu'on devrait retourner sous la loi dans l'Ancien Testament, ce sont des chiens. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est des gens qui sont méprisables parce qu'ils ne comprennent pas ce que Christ a fait. Et ils sont dangereux. Mais si ces gens-là, pour eux, la loi puis tout ce qu'on peut ajouter, c'est tellement important. Pour moi, c'est de la viande avariée. Tiens, je leur donne. Qu'elles mangent si elles veulent. Moi, j'ai Christ. Et c'est mon seul aliment. Il est assez dur, hein? Mais c'est vous dire combien, pour Paul, ajouter quoi que ce soit à Jésus-Christ, c'est quelque chose non seulement de dangereux, mais quelque chose de méprisable. Parce que Christ est l'objet de notre gloire et le moyen de notre salut, comme on va le voir ensemble. Et donc, Paul a renoncé. Il a renoncé à ses performances devant Dieu. Il a renoncé à sa religion, sa religiosité. Il a renoncé même à son estime personnelle, dans un sens. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. On fait un grand cas à notre époque de notre estime personnelle puis de notre valeur, mais Paul ne cherchait pas sa valeur là où nous autres, on la cherche. Il cherchait ailleurs. Au verset 4, il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » Alors, il y avait des gens qui disaient, « Non, 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 Christ, c'est bon, mais il faut ajouter aussi, il faut être un bon religieux, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut respecter la loi, tout ça. » Puis Paul, il dit, « Come on, si c'était ça le point, j'aurais toutes les raisons de me glorifier, vous comprenez pas? Je vous dépassais toute la gang, j'étais pharisien, hébreu, fils d'hébreu, je performais, ma réputation, c'était là, j'étais le religieux. En termes de relation aux chrétiens, j'étais un persécuteur de l'Église. Tu ne pouvais pas être plus religieux que moi. Mais quand j'ai compris Christ, quand Christ m'a saisi, quand j'ai saisi Christ, j'ai compris que tout ça, ça n'avait aucune valeur propre en soi. Ça n'a aucune valeur. Et j'ai considéré tout ça comme des pertes, des distractions qui pourraient m'empêcher de saisir vraiment Jésus-Christ dans ce que lui a fait. J'ai renoncé, je renonce à mes performances, à ma religion, même à mon estime. Paul dit au verset 5 et 6, « Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » En d'autres termes, ce que Paul est en train de dire, « Tout ce qui me donnait de la valeur devant Dieu et devant les hommes ne définit plus ma valeur. » Vous comprenez, Paul, avant de connaître Christ, était un homme rempli d'assurance. Dans son pays, dans sa religion, c'était comme le top. Il était réputé, il était craint, il était respecté. connaissait la parole de Dieu mieux que vous et moi, citait les Écritures, enseignait constamment. Il était le plus zélé des plus religieux. Il excellait. Et souvent, nous, on pense à ces choses-là, puis on se dit, OK, Paul, ça lui donnait comme une... Il essayait de gagner son ciel à quelque part. Il essayait de se donner une valeur devant Dieu. Non, mais c'est plus que ça. C'est devant les hommes aussi. C'était un statut. Mais lorsqu'il a saisi Christ, qu'est-ce qui s'est passé dans sa culture, dans sa société? Paul est devenu un moins que rien. Il a été perçu comme un fou. Lui qui était perçu comme un homme super brillant, un érudit, un intellectuel incroyable, il a été perçu maintenant comme un fou, un homme ridicule, un mystique, quelqu'un qui a cru dans un ressuscité. C'est quoi cette affaire-là? Un gars méprisé par les Romains, méprisé par les Grecs, méprisé par les Juifs, méprisé par tout le monde, battu, rejeté. Parce qu'il a considéré que tout ce qui définit notre valeur devant Dieu, puis aux yeux des hommes, pour lui, tout ça n'avait pas de valeur. C'était Jésus-Christ et son œuvre en sa faveur. Connaître personnellement Jésus-Christ, c'était la seule chose qu'il avait à ses yeux. Et remarquez que ce n'est pas seulement que Paul regardait sa vie avant d'être chrétien, puis il disait, tout ça, là, tout ce que je poursuivais, c'était de la boue. Non, c'est pour le présent aussi. Regardez les versets 7 et 8. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, donc dans le passé, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses au présent. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. » Et c'est pour ça que je vous dis, chaque fois que mon cœur veut comme dévier puis dire, « Wow, j'ai perdu ma job, je ne vaux pas grand-chose sur le marché du travail. » Je ne suis pas le mari que j'aimerais être. Ma femme n'est pas comme comblée totalement par moi. Je ne suis pas le père que j'aimerais être. J'ai comme des échecs dans ma vie. Je vieillis. J'ai plus la santé que j'avais. On est dans une société qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas vieillir. Puis là, je me sens vieillir. Je n'arrive plus à performer comme avant. Donc ce n'est pas juste avant. C'est maintenant même. Tout ce qui pourrait me distraire de la poursuite de Christ, pour moi, c'est de la boue, ces choses-là. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur, c'est pas important ces choses-là à mes yeux. C'est saisir Christ qui est important seulement. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. J'ai eu l'opportunité l'année dernière d'aller visiter un homme multimillionnaire, un Canadien qui donne énormément pour l'Évangile au Québec. Un homme très, très riche qui a réussi, qui a prospéré, puis... On est allé visiter, puis là, on a visité son industrie, puis on a vu tout ce qu'il faisait, puis tout ce qu'il avait bâti dans sa vie, puis tout ce que ça annonce pour l'avenir. Puis à la fin de la visite, on s'est assis ensemble autour d'une grande table, puis là, il nous a dit, « OK, parlez-moi de l'Évangile au Québec. Dites-moi qu'est-ce qui se passe au Québec. Dites-moi qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce qui s'en vient, là? » Et c'était tellement évident, en écoutant cet homme-là parler, que tout ce qu'il a pu construire dans sa business, dans ses affaires, dans les succès qui lui donnaient une renommée devant les hommes, ça n'avait aucune importance, ces choses-là. C'était juste des outils, des moyens que Dieu a mis dans ses mains pour servir Dieu, parce qu'il y avait une seule chose qui comptait à ses yeux. C'est les progrès de l'Évangile. Je vous le dis, c'était... Le monsieur n'était pas en train de jouer la comédie. C'était tellement, tellement évident. C'était tellement beau. C'était tellement touchant. Il avait compris que tout le reste, c'est de la boue. Sinon, saisir Jésus-Christ. Paul avait toujours une seule question en tête. Puis ça, vous allez pouvoir l'appliquer cette semaine. Paul avait toujours cette seule question dans sa tête. Ce que je vis aujourd'hui et maintenant, comme joie, comme peine, comme épreuve, ce que je lis, ce que j'entends, comment est-ce que ça peut m'aider à connaître davantage Jésus-Christ? J'ai une épreuve qui vient dans ma vie, j'ai un coup dur qui rentre. Comment est-ce que ça peut m'aider à comprendre et à connaître Jésus-Christ? J'entends des mauvaises nouvelles, j'ai une promotion au travail. Il y a des choses qui se passent dans mon cœur face à ça. Comment est-ce que je peux connaître davantage Jésus-Christ? J'ai un test qui est placé devant moi. Comment est-ce que je peux connaître davantage Jésus-Christ? Parce que toutes ces choses-là, pour lui, c'était secondaire. Saisir Christ était le seul but de sa vie, le seul but réel de sa vie, saisir et connaître Jésus-Christ. Ainsi, Paul a compris que rien n'est comparable à Christ et que la seule véritable poursuite qui en vaut la peine, c'est de connaître personnellement, véritablement, intimement Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, connaître Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Paul, en quelque sorte, dit « Je l'ai connu, mais je veux vraiment le connaître. » Je l'ai connu, je suis devenu chrétien, mais je veux vraiment le connaître. Parce qu'il y a beaucoup plus que ça encore que simplement devenir chrétien. Il y a voir Christ être formé en nous. Alors, au verset 10, il dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Ainsi je connaîtrai Christ. » Maintenant, vous comprenez, Paul a eu une apparition de Jésus-Christ. Paul, c'est le théologien par excellence. C'est le gars qui s'est converti d'une manière surnaturelle, incroyable. Paul connaissait Jésus-Christ. Mais c'était clair pour lui qu'il voulait vraiment le connaître. Ainsi, je connaîtrai Christ. Paul connaît Jésus, mais il sait qu'il y a tellement plus à saisir sur lui. Paul est en train de parler ici d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Une relation au quotidien avec Christ. Une intimité qui se bâtit avec lui. Une intimité où je comprends mieux la puissance de sa résurrection dans ma vie. Où je comprends mieux la communion à ses souffrances. Et puis on va y venir ensemble. Mais il est en train de parler d'une communion intime avec Christ à tous les jours. C'est de ça dont il est en train de parler. Puis ce n'est pas quelque chose de mystique. Vous avez peut-être déjà lu des mystiques. L'Église catholique a eu beaucoup de mystiques, mais il y en a aussi chez les évangéliques. Des gens qui ont comme des apparitions de Jésus ou qui vivent quelque chose qu'ils ne peuvent pas trop expliquer, pas trop formuler. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ça n'a rien à voir avec ça, honnêtement. Sérieusement, ça n'a rien à voir avec ça. Oui, c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de spirituel qui est à l'intérieur de nous, mais ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est quelque chose qu'on peut communiquer, qu'on peut enseigner, qu'on peut expliquer. Et donc, il dit au verset 12 à 14, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. » Donc, au passé, il a été saisi. Et c'est la première question ce matin. Est-ce que tu as été saisi par Jésus-Christ? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétienne? Est-ce que tu as été saisi par l'Évangile? Est-ce qu'il y a un moment dans ton histoire où tu as compris que ce que Christ a fait en venant mourir sur la croix, ce n'était pas simplement pour l'humanité ou pour les hommes ou pour les gens religieux, mais c'était pour toi, puis que tu avais absolument besoin de t'accrocher à ce que Christ a fait en mourant sur la croix pour tes péchés? Est-ce que tu as été saisi par Christ? Paul avait été saisi dans le passé par Christ. Maintenant, il voulait le connaître davantage. Alors, ça commence par son salut. Au verset 9, Paul dit « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Quand tu es saisi par Christ, c'est qu'un jour dans ta vie, un moment dans ta vie, ça devient limpide devant toi que tout ce que tu pourras faire de bon, toutes tes bonnes œuvres, ne te rendront jamais juste aux yeux de Dieu. Peut-être tu vas pouvoir faire à croire à du monde autour de toi que tu es un saint homme, une sainte femme, quelqu'un de vraiment bien, tu sais, puis c'est tellement quelqu'un de bien, mais un jour, tu réalises en ton être intérieur que devant Dieu, ce n'est pas une justice qui va satisfaire Dieu. Tes performances à l'égard de la loi de Dieu ne seront jamais suffisantes. Et donc, Paul avait décidé, dans le passé, au moment où Christ, littéralement, la conversion de Paul, je pense qu'il a été saisi par Christ, solide, le monsieur. Et à ce moment-là, il a dit, tout ça, là, c'est pas bon. La seule justice que je vais pouvoir présenter à Dieu, c'est la justice de Christ pour moi. Christ mort sur la croix pour mes péchés. J'ai saisi ça par la foi. Puis ma justice, c'est la justice de Christ qui vient couvrir mes fautes. Ça, c'est son expérience passée. J'ai cru en lui pour ma justice. En théologie, on parle de la justification. Mais Paul va dire ensuite, « Je veux connaître la puissance de sa résurrection. Ainsi, je connaîtrai Christ, au verset 10, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Et quelque chose qu'on doit réaliser intellectuellement, puis que progressivement l'Esprit-Saint doit venir déposer dans nos cœurs, dans notre conscience, pour qu'on puisse l'expérimenter. Et ce qu'on doit réaliser, c'est que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous lorsque on est saisi par Christ, vient habiter en nous. Un petit peu plus tôt, Paul parle de l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on adore et qu'on sert Dieu. Au moment où Paul a été saisi par Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est venu habiter en lui. Ce même Esprit par lequel Christ a été ressuscité d'entre les morts, cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est venue habiter en Paul et est venue habiter en chacun d'entre nous. Maintenant, attendez avant d'aller dans « oui, mais ce n'est pas ça que je vis ». Faites juste saisir cette vérité-là. Tu ne peux pas te convertir, tu ne peux pas devenir chrétien. Il y a des gens pour qui vous priez depuis des années, peut-être vos enfants, vos parents, des amis autour de vous, puis tu es là, puis tu te dis, mais pourtant, il est tellement intelligent. Comment ça se fait qu'il ne saisit pas que tout dans sa vie se placerait si, comme Packer l'a dit, hein, la connaissance de Dieu, toutes les autres choses prennent une juste perspective complètement différente. Puis là, tu es là, puis tu te dis, puis là, régulièrement, tu es obligé de t'arrêter, puis tu te dis, Seigneur, c'est un miracle. La conversion, c'est un miracle. C'est un miracle, c'est la puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous saisir et qui nous fait comprendre l'Évangile. Cette puissance-là agit en nous, vit en nous. Elle est là, elle est réelle. Cette résurrection-là est déjà commencée. La nouvelle naissance est opérée. Et Paul dit, « Je veux connaître la puissance de sa résurrection. » Je veux connaître, dans d'autres textes, il va parler de la plénitude de l'Esprit. Au quotidien, dans mes épreuves, dans mes difficultés, je veux vivre cette vie nouvelle-là de Christ en moi dès maintenant. C'est vraiment intéressant. Je vais faire un petit peu de gymnastique avec vous, là. Je sais que c'est un peu technique pour certains d'entre vous, mais restez avec moi, plongez dans ça, relisez ce passage-là. Je vous dis, il y a des trésors qui vont rendre votre vie chrétienne tellement heureuse, tellement glorieuse, même les épreuves. Il y a quelque chose qui se passe dans le passage. Christ a quitté la gloire, puis il est venu connaître la mort. Hein? Il a été brisé, il est devenu un homme, puis il a été brisé. Et donc, il a souffert, il est mort sur la croix, puis ensuite, il est ressuscité. Maintenant, dans le passage ici, Paul nous dit, pour nous, c'est l'inverse. Parce qu'il est ressuscité, nous, maintenant, on peut connaître la puissance de sa résurrection. Puis une fois que son esprit agit en moi, je vais maintenant pouvoir entrer dans une communion à ses souffrances. Je vais pouvoir accepter de souffrir pour l'Évangile. Je vais revenir sur ça. Mais voyez-vous, c'est l'inverse. Parce que Christ est ressuscité, maintenant, il a pu nous envoyer son Esprit Saint. Son Esprit Saint habite en moi. J'étais mort spirituellement, maintenant je suis vivant spirituellement. L'Esprit de Christ habite en moi. Maintenant, je peux vivre la puissance de sa résurrection. Et parce que je peux vivre la puissance de sa résurrection, je vais pouvoir vivre la communion à ses souffrances. Je vais pouvoir accepter de souffrir complètement autrement. Alors, premièrement, Paul dit, je veux au quotidien vivre ça. Et je sais comment ça peut être difficile à croire lorsque, au quotidien, tu luttes avec certains péchés, certaines chutes, certaines faiblesses. Tu dis, cette nature-là, dans le langage de Paul, c'est le vieil homme, est tellement forte en moi qu'on dirait qu'il n'y en a pas de nouvelle vie en moi. C'est décourageant, c'est un combat qui est dur. Persévère, poursuis. Je te dis, ça fait un petit bout là, que je roule ma bosse avec Christ, là. Il y a des jours, je me regarde dans le miroir puis je dis, il faut que j'arrête de regarder là parce que je vais broyer toute la journée. Il faut que je cours à Christ. Puis il y a d'autres fois, je me regarde dans le miroir puis ce que je vois, c'est l'œuvre de Christ en moi. Mais voyez-vous, ça revient toujours à Christ, tout le temps. À persévérer, je vous le dis, la puissance de la résurrection, l'œuvre de l'Esprit en vous qui va faire mourir ce vieil homme, qui va faire mourir les œuvres de la chair, qui va faire que le caractère de Christ est formé en vous. Dieu va le faire. Il est en train de le faire. Persévérez, poursuivez Christ. Cherchez à saisir Christ. Son esprit habite en vous. Vous êtes ici ce matin pour saisir Christ, même dans vos combats les plus difficiles. Mais Paul dit aussi quelque chose qui est peut-être un peu étrange. Il dit, je veux participer à la communion, devenir conforme à ses souffrances, conforme à sa mort. De quoi est-ce que Paul est en train de parler ici? Mais dans Philippiens, un peu plus tôt, là, au chapitre 1, verset 29-30, il dit que c'est une grâce pour le chrétien de souffrir. Maintenant, Paul n'est pas maso, rassurez-vous. Alors, Philippiens 1, 29, il dit, « Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce. » Une grâce, c'est comme un cadeau, hein? Il vous a été fait le cadeau par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, c'est une grâce, on l'a dit, tu ne deviens pas chrétien sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat. Et donc, Paul est en train de dire, je pense qu'il a premièrement en tête toutes les persécutions qu'on peut vivre à cause de l'Évangile. Puis il dit, lorsque je souffre à cause de l'Évangile, lorsqu'on me persécute à cause de l'Évangile, lorsque je suis persécuté à cause de l'Évangile, je participe à ce que Christ a souffert. Et dans cette souffrance-là, il y a une grâce qui est là. Je vais pouvoir connaître Christ davantage. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une bénédiction. Le premier pasteur qui a commencé à me former pour le ministère pastoral, il m'a dit, Yannick, si tu veux devenir un homme de Dieu, tu vas souffrir énormément. Pas parce que les églises sont difficiles, c'est pas ça qu'il y a en tête, du tout. Tu vas souffrir énormément. Parce que si tu veux connaître Christ, il va falloir que tu le connaisses à travers la souffrance aussi. Et donc, Christ a quitté la gloire, il est venu sur la terre, puis il a accepté la mort. Il a accepté de porter l'injustice du péché. Il a accepté d'être fait péché pour nous. Il a accepté que son Père détourne le regard de lui. Pour nous, il a accepté le mépris des hommes, ses propres créatures. Il a accepté qu'on lui crache dessus. Pas simplement ça. Christ, rappelez-vous lorsque Lazare, son ami, est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré lorsque Lazare est mort alors qu'il sait qu'il va le ressusciter quelques instants après? Parce que Jésus pèse à quelque part le poids de ce que c'est d'être un être humain dans un monde brisé par la malédiction de Dieu, par le péché. D'être un homme qui voit ses amis, ses parents, ses enfants mourir puis les mettre en terre, puis il voit toute la dévastation. Lorsqu'il pleure sur Jérusalem, Jésus regarde Jérusalem qui est rebelle, puis il voit toute la dévastation puis la rébellion. Alors je pense que lorsque Paul parle ici d'être en communion avec ses souffrances, je pense qu'il parle premièrement d'accepter d'être persécuté pour l'Évangile. Mais il y a beaucoup d'autres manières subtiles de communier aux souffrances de Christ. Tu as une relation avec quelqu'un au travail, puis il y a de l'injustice. C'est pas parce que tu as annoncé l'Évangile, c'est pas parce que tu as ouvert la bouche pour Christ. C'est même pas ça, il sait peut-être même pas que tu es chrétien. Mais il y a de l'injustice au travail. Puis tu choisis d'accepter des situations injustes puis de les vivre comme un chrétien va les vivre. Tu as un conflit avec ton mari chrétien. Ça, c'est le pire, ça. Avec ta femme, ton épouse chrétienne. Puis, elle ne comprend pas. Il y a quelque chose de profondément injuste dans tout ça, parce que, à quelque part, cette personne-là est en train de résister à Dieu, puis parce qu'elle résiste à Dieu, toi, tu dois souffrir. Kevin DeYoung dit ceci, il dit, en parlant de l'Église, il dit, « Ta résistance à ta sanctification, c'est ma bénédiction. » Comprenez-vous ça? Dieu veut adresser un péché dans ta vie, puis toi, tu résistes, puis Dieu veut me bénir à travers ça. Ah, merci! Tu ne veux pas écouter quand il te parle, je souffrirai moins. Oui, mais Dieu veut te bénir. Puis tu vas subir des injustices. Quand tu pleures parce que tes enfants ne viennent pas à Christ, quand tu pleures parce que tes parents n'acceptent pas le Seigneur, tu communies aux souffrances de Christ qui pleure sur Jérusalem, qui pleure sur le monde. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas simplement de dire « Oui, mais c'est dur! » Non, c'est de dire « Qu'est-ce que je peux connaître de Christ et de son cœur? » Quand mon enfant me fait du mal puis qu'il me brise le cœur en deux, j'ai l'opportunité de ne pas vivre cette souffrance-là comme un païen, comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui n'a pas été saisi par Christ, mais de le vivre comme quelqu'un qui a été saisi par Christ et de comprendre « Ah, c'est ça, Seigneur, que tu vis. » C'est ça que tu vis lorsque tu vois le monde qui est rebelle, lorsque tu vois les êtres humains qui s'entredéchirent. C'est ça que tu vis lorsque moi, je suis rebelle envers toi, Seigneur. Et j'ai la possibilité de communier aux souffrances de Christ. Et dans ça, je vais communier dans sa mort. parce que je vais vivre l'Évangile à cet endroit-là. Quand on parle à l'Église de l'espoir d'être centré sur l'Évangile, là, c'est de ça dont on parle. C'est exactement de ça dont on parle. Puis Paul dit, « J'aurai jamais terminé. Tant que je ne parviendrai pas à la résurrection, j'aurai jamais terminé de poursuivre Christ. » Si par la grâce de Dieu, vous avez été attentif à ce qu'on voit ensemble ce matin, là, demandez à Dieu de vous montrer par son esprit comment ça s'applique dans votre vie cette semaine. Je vous le dis, il y a littéralement des dizaines d'endroits où ça s'applique. Je vous le dis. Je m'asseoirai avec vous, puis on prendrait le temps de regarder votre quotidien, puis vos joies, vos peines, vos tristesses, vos ennuis, puis toutes des opportunités de connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et la communion à ses souffrances, et de saisir Christ à travers ça, de saisir Christ à travers ça. J'avance rapidement, simplement pour dire ceci. L'apôtre Paul dit qu'on apprend ça en cherchant à connaître Christ, mais on apprend ça en regardant les gens autour de nous, les chrétiens qui ont connu Christ. Et donc, c'est pour ça que si vous prenez le temps de relire le passage, ce matin, on englobait une longue section de Philippiens 2, 17 à 3, 21, puis il y a comme une drôle de parenthèse dans Philippiens où il va parler d'Épaphras, puis de Timothée, puis il parle de ces gars-là, puis qui a envoyé Épaphras, qui espère bientôt envoyer Timothée. Puis là, tu te dis, d'habitude, c'est des affaires que Paul met à la fin de sa lettre. Pourquoi il met ça là? Mais c'est parce que Paul est en train de donner deux hommes en exemple qui ont accepté de souffrir pour l'Évangile. Puis il dit, ces gars-là, ce sont des modèles. À travers des choses toutes simples, Épaphras a accepté d'apporter les offrandes, les dons que vous donniez pour supporter la mission, puis dans le processus, il est tombé malade. Puis à travers quelque chose de tout simple comme ça, il a pu expérimenter l'Évangile, puis il l'a fait pour l'avancement de l'Évangile. Regardez, c'est un modèle. Paul va dire « Honorez de tels hommes ». Plus loin, il va dire « Soyez mes imitateurs ». Alors, je veux vous dire ceci en terminant. Dans l'Église ici, je commence à la connaître un petit peu, l'Église. Hein? Ça fait 20 ans, plus que 20 ans que je sers ici avec plein de gens. Dans l'Église ici, je vous l'assure parce que je les connais personnellement, intimement. Je ne les nommerai pas, ils ne seraient pas fiers parce que leur gloire, c'est Christ, ce n'est pas eux. Dans cette Église-ci, il y a des dizaines de personnes. Des dizaines de personnes qui sont des modèles à imiter parce qu'ils ont persévéré dans la foi. Et ils ont appris à connaître Christ à travers les joies et les peines. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ est manifeste. Le caractère de Christ est de plus en plus formé en eux. Et lorsque les épreuves de la vie, les souffrances de la vie viennent, elles les embrassent. C'est dur, c'est difficile, mais elles les embrassent en sachant que leur bon Père permet ces épreuves-là et que ça va concourir à leur bien. Et à travers ces douleurs-là, ils vont expérimenter Christ. Dans cette église-ci, il y a des dizaines de personnes comme ça. Spottez-les. Trouvez-les. Identifiez-les. Collez-vous à eux. Allez dans leur petit groupe. Impliquez-vous dans un ministère avec eux. Invitez-les à manger. Allez les voir puis dites-leur, « Peux-tu prier pour moi? J'aimerais ça te connaître plus. J'ai besoin d'apprendre à t'imiter. » Maintenant, il y a une contrepartie à ça. C'est vraiment important. C'est super important ce que je vous dis là. C'est vraiment important. Vous devez accepter d'être des modèles. Vous devez vraiment accepter d'être des modèles. C'est biblique. On ne le fait pas pour la gloire. Mettez de côté la fausse humilité et arrêtez ça. Vous devez accepter que Dieu vous appelle. Si vous avez été saisi par Christ, Dieu vous appelle à devenir des modèles à imiter. Et ça veut dire que vous allez ouvrir l'intimité de votre vie, de vos combats, de vos luttes, de vos victoires, de vos succès. C'est pour ça qu'on essaie de donner en exemple nos faiblesses à nous. Combien de fois je vous ai dit que j'essaie de grandir dans ma vie de prière? Hey, c'est pas glorieux pour un pasteur que ça fait 20 ans qu'il est pasteur. C'est poche! C'est la réalité! Puis plus j'avance, plus je grandis, mais je suis tellement pas là. Tellement pas comme le premier pasteur qui m'a formé. Acceptez d'être des modèles à imiter. Et identifiez dans l'Église des gens qui sont vos modèles que vous voulez imiter. Puis côtoyons-nous ensemble ainsi pour expérimenter et saisir Jésus-Christ. Amen. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Écoute, si tu n'as pas été saisi par Christ, je sais que tu ne peux pas prendre cette décision-là par toi-même. Mais peut-être que ce matin, l'Esprit Saint te parle. Peut-être que l'Esprit de Christ te parle, puis tu as saisi quelque chose sur ce que Christ est venu faire en mourant sur la croix, ce que Jésus est venu faire en mourant sur la croix. Peut-être que tu entends ça depuis ton enfance. Si l'Esprit de Dieu te saisit, humilie-toi. Humilie-toi dans la prière. On va voir un chrétien mature, puis dis-y, veux-tu prier avec moi, s'il te plaît? Veux-tu prendre un temps avec moi? Je veux saisir l'Évangile. Je veux marcher comme un chrétien. Je veux arrêter de m'appuyer sur ma propre justice, bâtir ma vie par moi-même. Je veux que Christ soit ma vie. Et je veux qu'il soit ma première poursuite. C'est correct, je vais me bâtir une carrière, je vais vouloir me marier, je vais vouloir avoir des enfants. Mais toutes ces choses-là vont prendre une proportion tellement faible comparativement à Jésus-Christ. Et si tu as été saisi par Christ, puis tu dis la vie chrétienne, c'est vraiment pas si hot que ça. C'est parce que tu as détourné tes regards de Christ. Et tu as pensé que tu connaissais Jésus-Christ. Mais c'est impossible de penser que la vie chrétienne n'est pas l'expérience la plus extraordinaire pour un être humain en gardant les yeux fixés sur Christ. C'est absolument impossible. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous t'adorons ce matin, nous te célébrons. Tu es merveilleux, Seigneur. Combien tu nous as aimés, combien tu nous as chéris pour quitter la gloire de ton Père et venir sur cette terre en t'humiliant. Et Seigneur, cette pensée qui t'habitait, qui faisait que tu étais bon, tu étais généreux, tu faisais don de toi-même constamment, Seigneur, c'est bouleversant. Seigneur, c'est cette même mentalité, ce même état d'esprit dont nous désirons être habités, Seigneur, et on veut fixer les regards sur toi. Pardonne-nous, Seigneur, de détourner les regards de toi, de penser qu'on est rendu alors que Paul savait très bien qu'il ne l'était pas. Et Seigneur, on veut persévérer jusqu'à la fin. À quelque part, on sait que seul au jour de notre résurrection, la course sera finie, Seigneur. Notre espoir est là. On ne veut pas se relâcher, Seigneur. On veut te confesser ce matin qu'il y a des choses qui nous ont distraits de toi, qui nous ont distraits de la croix, qui nous ont distraits de ta mort, de ta résurrection. Des choses qui ont pris une valeur disproportionnée à nos yeux, Seigneur. La richesse, le confort, ce qu'on veut construire ici, notre propre justice devant Dieu, devant les hommes. Seigneur, on veut considérer ces choses-là comme de la boue. Abandonner ces choses, Seigneur, et saisir Jésus-Christ. Amen.